Bonne fin de matinée à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous sur Grand Sud FM. Et comme prévu, nous partons tout de suite au Salon du Livre de Grand Narbonne et on retrouve Marilyn. Bonjour Marilyn.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous les auditeurs. Effectivement, en direct du Salon du Livre du Grand Narbonne, c'est le dernier jour. Moi, je vous conseille de venir ce matin. Il y aura un petit peu moins d'auteurs cet après-midi, des auteurs qui vont devoir reprendre le train, rentrer chez eux. Et je suis en compagnie de Dali Farah, qui est romancière, qui est dramaturge française, qui nous présente Retrouver Fiona, un roman enquête qui est sorti en 2023, dans lequel elle retrace, par le prisme de sa propre histoire, l'affaire Fiona, une fillette maltraitée. Une fillette tuée par sa mère et son compagnon, c'était en 2013. Bonjour.
Bonjour.
Donc une histoire qui a débuté le 12 mai 2013, l'une des histoires, on peut le dire quand même, qui est l'une des plus marquantes de la décennie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits ?
Alors, au départ, c'est une disparition. Cette disparition, 4 mois plus tard, on apprend que c'est une mise en scène, parce que la petite a réellement disparu, mais du monde, pas seulement de la maison. Et ensuite, donc, ça a été pendant 10 ans une quête pour comprendre où était le corps. Donc, c'est la quête d'un corps qu'on ne retrouvera jamais et des verdicts qui ont été cassés jusqu'en 2020. Donc, c'est 7 ans en fait. C'est l'écriture de mon livre, 10 ans, 7 ans avant qu'on établisse donc la culpabilité de la mère et du beau-père.
Alors, vous, Dali Farah, qu'est-ce qui vous a amené à assister au procès et à commencer à prendre des notes?
Alors au départ, moi je suis comme tous les Clermontois en fait, lorsqu'on a cherché Fiona, les hélicoptères passaient sur le parc Montjuset, moi j'habite à côté. Au départ c'est vraiment le surgissement de l'inédit, de ce bruit qui est pas commun et de l'inquiétude qui va avec, qu'est-ce qui se passe. Et petit à petit en fait j'ai quitté la foule des Clermontois pour m'approcher un peu plus jusqu'à ouvrir un dossier que j'ai appelé « On ne soupçonne jamais les papillons » en mémoire d'une phrase que j'avais entendue chez les Simpsons, c'était Bart Simpson qui s'est déguisé en papillon et qui commettait énormément de méfaits, et puis en papillon, on disait on ne soupçonne jamais les papillons, parce qu'effectivement, la mère avait appelé à la compassion en mai, et en septembre, en fait, elle se trouve en garde à vue. Et donc, personne ne l'avait soupçonné. Et à partir de là, je commence à mettre des dossiers, des éléments, des liens vidéo, des liens, etc. Et c'est petit à petit, jusqu'en 2018, au premier procès au Puy-en-Velay, que je me mets vraiment, je me dis, je sais que je vais faire écrire un livre là-dessus.
Et Dali Farah, on l'a dit, hein, c'est l'un des faits divers qui a marqué quand même la France entière. Dans votre roman enquête, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, un roman enquête, vous apportez des pistes aux questions auxquelles personne finalement n'a eu de réponse.
Oui, j'ai essayé d'explorer le fait à la fois dans un geste documentaire, journalistique, donc une enquête, on va dire, traditionnelle, mais aussi en écrivaine, c'est-à-dire d'aller écrire les moments manquants, les espaces manquants, qui est la solitude de l'enfant battu, qui est la solitude de l'enfant qui, finalement, dans la société, n'est pas entendu ni vu, qui est invisible. On sait qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours. Et le silence, parce que c'est un effroi, c'est normal, les gens sont terrorisés à l'idée d'envisager cette réalité-là, mais elle existe. Et moi, j'ai voulu écrire contre ce silence-là, et aussi contre l'absence du corps. Elle n'a pas de tombeau, cette petite, et j'avais envie aussi d'écrire une sorte de tombeau poétique, qu'on puisse se recueillir aussi en mémoire de sa vie qui n'a duré que 5 ans, mais que je ne voulais pas voir disparaître, c'était impossible pour moi.
Est-ce que, Dali Farah, quand vous avez commencé à prendre des notes comme ça, vous aviez déjà en tête ce roman enquête Retrouver Fiona ?
Non, il s'est construit sur 10 ans. En fait, 10 ans, en 10 ans, j'ai vieilli, en 10 ans, j'ai compris énormément de choses, en 10 ans, la France a évolué, c'est vraiment, et puis il y a eu tous les procès, des prises de conscience, une interrogation sur la maternité, donc, c'est un livre qui a mûri et que j'ai refait jusqu'à lui trouver une dernière forme, en sachant qu'il était fini en 2018 après le premier procès, et puis après, elle a été libérée, donc il fallait refaire le livre. Donc j'ai suivi aussi ces tâtonnements. Et le livre témoigne de ça. Au départ aussi, je ne sais pas quoi ressentir, je suis en colère. Après, j'essaie de comprendre. Donc je suis passée par différents états. Et j'ai voulu dans le livre montrer ça aussi. Parce qu'on ne domine pas un fait, en fait. Il faut l'expliquer pour pouvoir le dépasser.
J'imagine que certains moments au procès ont dû être très difficiles à vivre. Comment est-ce que vous avez perçu justement cette mère qui s'appelle Cécile Bourgeon ?
Alors, au départ, ça m'a beaucoup troublée, il y a eu une forme d'admiration de la voir, cette femme qui a un CAP paysagiste, qui n'est pas censée maîtriser ce lieu qui est la cour d'assises, qui est très solennelle, avec des gens, elle tient tête. au procureur, elle tient tête aux avocats. Donc il y a une femme comme ça de, on va dire, de rien. Donc il y a un côté un peu troublant de voir cette puissance qu'elle dégage, et puis aussi cette manière qu'elle a de presque de créer des mondes alternatifs. Mais au fur et à mesure des procès, j'ai pris conscience de sa culpabilité, et c'est vraiment en 2020 elle va nommer, alors parce qu'elle a été libérée, nouvellement enceinte, nouvellement mariée, elle a une petite fille et elle lui donne un prénom, et son prénom est arabe, et donc je donne pas le vrai prénom, hein, j'ai trouvé une traduction, donc je mets dans le livre El Mahmiya, ça veut dire la protégée. Et là ça me fait tilt, je dis mais si vraiment elle n'a aucune culpabilité, de qui veut-elle protéger sa fille sinon d'elle-même? Pourquoi appelle-t-elle sa nouvelle fille la protégée? Et donc là ça me fait j'ai vraiment une prise de conscience et je la vois enfin. Mais ça m'a mis du temps parce qu'il fallait aussi que moi je renonce à cette image-là, parce que moi-même j'ai été une enfant qui a reçu des coups, et c'est très difficile en fait de destituer la mère dans son cœur, même si c'est une mère qui a pu nous nuire, et en même temps lui prêter une part d'innocence qui est celle de sa propre enfance, l'enfance de ma propre mère, l'enfance de Cécile qui est aussi une enfant battue, probablement passablement, on va dire, incesté, donc qui a vraiment vécu des choses aussi difficiles. Donc dans chaque adulte qui commet un crime, il y a aussi une enfance, et une enfance nue, et ça m'a aussi beaucoup perturbée.
Oui, psychologiquement, ça a dû être des moments assez difficiles à vivre, c'est des moments de remise en question.
Oui, après, à chaque fois, j'avais conscience que j'étais pas le sujet. La petite fille, c'est Fiona, c'est elle qui a souffert, c'est elle qui a disparu. Mais je prends conscience que de notre société, si elle prend pas soin de l'enfance, si elle continue de bâcler l'enfance et de s'étonner après de voir des adultes qui tournent mal, etc., ou qui, la violence, elle se fabrique. Je suis désolée de le dire, elle se fabrique en chacun d'entre nous. Et que ce soit une violence qu'on retourne contre soi ou une violence qu'on retourne contre les autres. Et si on prend pas conscience de ça, que c'est une fabrique, qu'il n'y a pas les méchants et les gentils d'un côté, eh bien on continuera à perpétrer et à fabriquer la violence tous ensemble, presque de manière complice et silencieuse.
Finalement, ce livre « Trouver Fiona » vous a emmené à enquêter peut-être un peu plus loin, peut-être sur le fonctionnement de l'ASE également.
Oui, sur l'aide sociale à l'enfance, il faut savoir qu'ils ont très peu de moyens, il faut savoir qu'il y a très peu de juges d'instruction, qu'ils doivent s'occuper de plein d'enfants, que en fait souvent les réponses fournies par ces institutions ne sont pas très bonnes, pas forcément adaptées aux familles. Des fois, il y a des enfants qui sont placés qui ne devraient pas l'être, d'autres qui ne le sont pas alors qu'ils devraient. Enfin, c'est dans la pénurie de moyens, comme dans tous les services publics, hein, dans la pénurie de moyens, eh bien, on est violent et on fait un peu n'importe quoi parce qu'on fait comme on peut. Hein. Je ne vais pas accuser des personnes, mais j'accuse une manière finalement de considérer l'enfance un peu comme le dernier truc, alors que moi, avec ce livre Retrouver Fiona, je me rends compte que le socle, je dis bien le socle de toutes les violences, eh bien ce sont les violences faites aux enfants. C'est le début. On résout pas ça, eh bien faut pas qu'on pleure quand on voit toutes les autres violences qui arrivent ensuite.
Donc ça veut dire qu'il faudrait un petit peu changer ce service d'aide sociale à l'enfance. Il faudrait qu'il y ait des modifications, il faudrait qu'on prenne plus l'enfant en compte. C'est ce que vous voulez dire aujourd'hui, Dali Farah?
Mais plus que ça, je pense que la manière dont on considère l'enfant dans nos sociétés n'est pas juste. Je vais donner un exemple, peut-être, par exemple, l'école. Pourquoi est-ce que les enfants vont à l'école toute la journée, comme ça, tout le temps, en fait? Pourquoi tout ce temps entre 3 ans et 18 ans, ce temps de la jeunesse, est principalement consacré à être assis et à se taire? À quel moment, en fait, ça, c'est juste? Je dis pas que l'école, c'est mal ou qu'il faut pas instruire, etc. Mais est-ce que cette modalité-là, qui permet effectivement aux parents de travailler, du coup, toute la journée, je veux bien, mais est-ce que c'est si juste que ça? Est-ce que c'est un bienfait à l'enfance que de lui dire « assieds-toi et tais-toi toute la journée » et rentre dans ce moule-là, et si tu rentres pas, c'est pas grave, on va tasser. Par exemple, voilà, vous voyez, c'est ça aussi que je veux dire. C'est pas seulement la violence, elle est partout dans le sens, dans la manière dont on considère le corps de l'enfance. Même quand on va dire, allez, fais un bisou, si, vas-y, fais un bisou, et on va forcer l'enfant. Il y a mille et une manières de considérer le corps de l'enfance et l'éducation qui fait que, en fait, on répète cette violence et on l'étend à notre manière de vivre. Donc, moi, je voudrais vraiment qu'on se rende compte que ce temps-là, il faut le protéger et lui donner de la force, en fait, pour qu'il puisse ensuite, pour que ça puisse faire des adultes, effectivement, qui ne soient pas en si grande détresse au point de soit de se nuire, soit de nuire.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire, Dali Farah. C'est ça s'appelle Retrouver Fiona. Si vous voulez acheter ce livre, hein, vous pouvez venir à la rencontre de Dali Farah, ce roman enquête sorti en 2023. Vous avez aujourd'hui également, Dali Farah, 3 romans à votre actif, donc celui-ci et 2 autres. Tous parlent un petit peu de violence. C'est un sujet qui vous touche, que vous avez besoin de mettre en avant. Enfin, on sent que que vous avez besoin de le mettre en avant quand on vous entend parler des enfants notamment.
Oui, mais en fait, si on regarde le monde, c'est quand même ça qui est visible. En fait, moi, je crois que le malheur n'est pas un permis de nuire, mais il en offre mille occasions. Voilà, c'est pas un permis de nuire, mais il est partout. La violence, elle est partout. Elle est en nous, notre agacement en conduisant une voiture. Je n'invente pas ça. L'injustice sociale, c'est la plus grande des violences qui va produire d'autres violences. Et à chaque fois, tous ces mécanismes-là, on veut pas en prendre conscience parce qu'il faudrait revoir, en fait. La violence n'est pas une anomalie de la société. C'est la société qui fonctionne comme ça. Et donc, moi, c'est pas que je m'intéresse à ça parce que je sais que c'est ce que j'observe. Les gens se font mal tout le temps.
C'est ce que vous dites un peu dans le doigt?
Oui, alors le doigt qui fait référence à ce geste un peu insolent, qui part d'un fait de ma vie personnelle, en fait, va être une explication justement de la violence en soi et de la violence autour de soi. Et ce geste, en fait, ça va être aussi, dans ma vie à moi, le fait de dire, bah stop, quoi, je ne veux plus la subir, je ne veux plus l'accepter. Et je fais ce geste dans la réalité. Et ensuite, l'écriture vient, je dis pas que tous mes livres sont ressemblent à ce geste, mais il y a quelque chose de cette idée d'affirmation, en tout cas d'une lutte, de compréhension de la violence. Je sais que c'est pas moi qui vais l'éradiquer, mais je crois que si on en prend conscience, on peut peut-être aller vers quelque chose que j'admire et que j'aime, qui s'appelle la douceur.
Mais c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, la douceur. Bon, ce roman Enquête, Retrouver Fiona, vous a demandé 10 années de travail, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prête à renouveler aujourd'hui?
Alors, moi, les livres, en fait, je décide jamais. Ils viennent à moi. J'ai beaucoup de chance, la page blanche, je sais pas trop ce que c'est. Ce qui fait que pour l'instant, je suis sur d'autres choses, mais je ne sais pas. Oui, en tout cas, je m'intéresse aux gens. Je m'intéresse à les écrire. J'ai dans mon travail théâtral, et peut-être même que je veux revenir à Narbonne pour ça. Donc, j'écris les gens et leur vie. Donc, oui, toute personne là, vous auditeurs qui nous écoutez, eh bien, vous êtes un roman aussi. Vous êtes une histoire. Votre vie a de la valeur et ce que vous avez vécu mérite d'être raconté, écouté. Et moi, ça c'est sûr que je vais poursuivre ce travail d'écriture des gens ordinaires, de leur peine, de leur vie, de leur joie. Et ça, j'arrêterai jamais.
Ah ben, peut-être on aura la chance de vous voir au Théâtre Scène Nationale du Grand Narbonne d'Ali Farah. Dernière question, si je peux vous poser cette question. À quel lecteur, selon vous, s'adresse ce roman Enquête, Retrouver Fiona?
C'est un livre qui demande consentement. Tous mes livres demandent consentement. Moi, c'est vrai que je ne fais pas vraiment de promotion ou de pub parce qu'il faut être d'accord pour me lire. Et après, il s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre parce que tous mes livres, en fait, sont un peu comme des miroirs. Vous allez lire l'histoire de Fiona, vous allez lire mon histoire, mais vous allez aussi lire la vôtre. Donc, il faut aussi accepter de s'engager à ça. Donc, moi, je ne force pas, ce que les auditeurs, vous êtes les bienvenus pour venir passer me voir ce matin. Mais ce livre, en fait, il va aussi vous amener à comprendre votre propre enfance, votre propre corps d'enfant. Donc, c'est un livre qui est dur, mais c'est un livre qui permet de réfléchir et de penser et qui crée une forme de soulagement de manière un peu paradoxale.
Ben, merci beaucoup pour cet entretien d'Ali Farah. Je vois que vous avez du monde sur votre stand. Et comme je sais que vous partez à midi, c'est ça?
Oui, midi, midi et demi, oui, voilà.
Alors, dépêchez-vous, hein, les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez été touchés par ce témoignage d'Ali Farah, ben, venez la voir. En plus, elle est juste à l'entrée du Salon du Livre, le stand numéro 1, donc vous pouvez pas vous tromper. Moi, je vous dis merci beaucoup et j'espère à bientôt sur Narbonne, alors.
Merci, oui, avec plaisir.
Allez Jean-Michel, je vais me diriger vers les halles de Narbonne puisque Thomas nous attend avec de la cuisine libanaise. À tout à l'heure.
Merci Marilyn, à tout à l'heure. On fait une courte pause sur Grand Sud FM. Bonne fin de matinée. Grand Sud FM. 11h20 sur Grand Sud FM. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Nous sommes toujours en direct du Salon du Livre de Grand Narbonne. Et là, on va retrouver Thomas au cœur des halles de Narbonne.
Effectivement Jean-Michel, je suis au cœur des halles de Narbonne, donc là je suis en compagnie de toutes les cuisinières qui s'activent pour créer la petite recette libanaise de la journée. Je vais être en compagnie d'André Malouf dans quelques instants, elle est encore en train de faire quelques petits préparatifs. André Malouf, on le rappelle, né à Beyrouth, du côté du Liban, qui est une passionnée de cuisine, qui nous a sorti un livre, Les saveurs du Liban de Beyrouth à Paris. Mais voilà, André Malouf va être avec moi là dans quelques instants, voilà, elle est en train de s'essuyer les mains tranquillement. Elle va être disponible maintenant pour l'interview. Interview. Et donc je vous disais, elle a créé ce livre Les saveurs du Liban de Beyrouth à Paris avec du coup Karim Haïdar, ancien avocat et chef du restaurant parisien Askini. Et bon, d'abord avant de commencer, on va s'introduire avec Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes le communicant des Halles de Narbonne, je le rappelle. Alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu comme recette avec André Mahalouf aujourd'hui?
Alors, c'est surtout André qui a prévu une recette, puisque on a la chance d'accueillir depuis quelques années maintenant des auteurs qui ont une actualité littéraire en lien avec le culinaire, avec la cuisine. Et donc, on laisse le choix justement aux auteurs de cuisiner, de préparer, de présenter en tout cas une recette qui leur tient à cœur. Donc hier, on avait les Belmondo, Luana et Alessandro Belmondo qui sont venus nous présenter une recette qui a bercé un petit peu leur enfance. Et aujourd'hui, c'est André qui a choisi de mettre un produit en particulier à l'honneur, et c'est les blettes. Donc il y a deux ou trois recettes qui seront déclinées autour de ces blettes. Voilà. Donc André a voulu se lancer le défi, et je lis, parce que à titre personnel, je déteste les blettes, il faut le savoir. Et donc son défi, c'est justement de me faire aimer les blettes, et je pense qu'elle va réussir, parce que depuis tout à l'heure, ça sent très très bon. Il n'y a pas que les blettes, il y a tout un tas d'ingrédients, d'épices et de saveurs un petit peu à la libanaise qui commencent un petit peu à sortir des casseroles et des poêles. Et donc ça va être, je pense, un très bon moment de dégustation. On attend ça avec impatience, et je pense qu'elle va réussir son défi.
Ouais, ben, on espère, en tout cas on la voit s'activer. Depuis tout à l'heure, elle est concentrée par la cuisine, on la sent vraiment impliquée à 200% justement dans cette cuisine. Alors vous parlez de 2-3 recettes qui vont être faites justement, on peut en dire plus sur ces 2-3 recettes?
Alors il y a des blettes façon tarator, je crois, donc avec du citron, me semble-t-il, avec de la coriandre, avec différentes épices. Alors, là de tête, j'ai pas tous les ingrédients qui me viennent en tête, mais ce que je vous propose, c'est d'aller sur le stand numéro 14 du Salon du Livre et d'acheter le livre, puisque toutes les recettes qui seront préparées ce matin, ils sont notamment déclinés, et pas que. Il y a également beaucoup de préparations à base de pois chiches, à base de lentilles. On aura également des blettes aux lentilles avec de la courgette, avec de la tomate. Voilà, donc des préparations qui sont vraiment un petit peu différentes les unes des autres et qui vont amener une saveur particulière à ces blettes qui sont en train de cuire. D'abord à la vapeur et ensuite qui seront apprêtés et assemblés avec tous les autres produits dont je viens de parler.
Alors, on peut le dire aussi, tout ce qui vient là, de ce qui est sur les Halles, c'est du local en plus.
Et on est bien d'accord, donc ce sont effectivement que des produits des Halles. On a la chance et la facilité de pouvoir se ravitailler auprès des 64 commerces de bouche des Halles. Et donc, le choix est pléthorique, et donc on n'a aucun souci, aucune inquiétude pour pouvoir avoir tous les ingrédients nécessaires aux préparations, même si ce sont des préparations un petit peu particulières avec des saveurs de différents pays du monde. On a aussi des marchands d'épices et des marchands de produits un petit peu spécialisés. On arrive à trouver dans les Halles de Narbonne à peu près tout ce qu'on veut.
Voilà, donc là on aura pas mal de choses sur le stand. Alors on a du pois chiche, on a un peu de tomate, on a un peu d'oignon rouge, on a un peu de blettes, beaucoup de blettes, voilà, surtout pour vous, spécialement, c'est la petite dédicace pour vous Stéphane, c'est toutes ces blettes, mais voilà, on a pas mal de produits. Alors on va essayer d'avoir André Mahalouf, on va voir si elle est disponible maintenant. Bonjour André qui est en train de mettre un petit peu de sel voilà dans toute la popote. Bonjour André.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
Bon, on vous sent actif depuis tout à l'heure, hein. Vous êtes à fond là.
Il fallait démarrer le plat pour que les gens puissent le goûter et qu'il soit terminé. On essaie de le faire en 15-20 minutes.
Alors, vous êtes une spécialiste de la cuisine libanaise. Comment on peut la définir, cette cuisine?
C'est une cuisine de santé. C'est une cuisine qui est très riche en légumes, en épices, en herbes, en d'une très grande diversité, parce qu'elle couvre un territoire immense. Et c'est une cuisine qui a survécu au temps, qui est très ancienne et qui se perpétue et se transmet de génération en génération, en gardant toujours les meilleurs plats et les meilleures recettes. Toutes celles qui n'étaient pas bonnes ont disparu dans le temps, et donc aujourd'hui on a vraiment un ensemble de plats qui sont les meilleurs, les plus raffinés. Et qui sont, il y a énormément de plats, de légumineuses, de lentilles, de haricots et d'herbes, de plantes, de légumes, parfois des légumes oubliés qu'on ne sait pas cuire comme les blettes. Aujourd'hui, j'ai choisi les blettes parce que c'est la saison des blettes, c'est la fin de la saison ici, mais tout dépend quand est-ce qu'on sème les blettes. Si on les sème plus tard, on en a tout l'été. Et donc, je sais que les recettes de blettes en France ne sont pas très, très nombreuses. Et là, je prépare 3 recettes de blettes. Une qui est une soupe de lentilles aux blettes avec du citron, de la menthe et de la coriandre et de l'ail. La seconde, ce sont des blettes à la sauce de sésame et au citron. C'est un plat qui accompagne parfaitement les poissons. Et la troisième, c'est une sorte de salade de blettes qui peut être le plat d'un dîner avec des blettes, des oignons, de l'ail et des pois chiches. pas beaucoup de pois chiches. Donc, c'est comme une salade de blettes et de pois chiches, toujours avec très bien assaisonné. Voilà.
Ouais, donc là, on a pas mal de recettes si on n'avait pas trop d'inspiration pour ce midi. Merci André Mahalouf de nous avoir donné toutes ces recettes. Et est-ce que vous pensez, alors c'est une petite question, enfin moi en tant que végétarien, c'est une question que je me posais. Est-ce que vous pensez que cette cuisine justement libanaise a été un peu plus démocratisée juste suite à l'essor des végétariens en France?
Alors, je pense qu'elle a été plutôt propagée malheureusement à cause de la guerre du Liban. Et les Libanais ont dû fuir leur pays, se sont retrouvés en France. Et quand vous partez de votre lieu de naissance, c'est la cuisine qui vous manque le plus. Et donc, on s'est tous retrouvés dans une situation de manque et de besoin de retrouver notre cuisine. Et puis de la faire connaître aux autres, parce que bon, c'est un moment de partage. Et aussi d'essayer d'accepter notre situation de déplacer, d'exiler, et donc la cuisine est là qui vient un peu colmater les brèches et qui vient nous rassurer parce qu'on retrouve là toute la cuisine de notre enfance. Et donc c'est comme ça que la cuisine se propage. Quand un Français va s'installer au Mexique, et la première chose qui lui manque, c'est peut-être le foie gras, c'est peut-être tous les plats français. Dans lesquels il a grandi. Et puis bon, les conditions climatiques là-bas ne sont pas les mêmes qu'en France, donc il n'a pas les mêmes besoins, mais on essaie toujours d'adapter. Et c'est là, de là souvent que naissent les meilleures recettes et les meilleurs chefs au monde. J'ai remarqué ça, les grands chefs sont souvent issus d'origines différentes. Et donc ils ont dû s'adapter et mettre ensemble des choses qui à l'origine n'auraient pas dû cohabiter. Et donc, c'est comme ça que la cuisine survit, se propage et s'améliore.
Et s'améliore et se propage, comme vous l'avez dit. On connaît maintenant beaucoup de spécialités libanaises ici, comme par exemple les falafels, l'une des spécialités les plus connues. Je vais vous embêter une dernière fois, parce que je sais qu'après, vous allez retourner en cuisine. Ça s'active pas mal à côté de moi. Alors, vous avez créé ce livre avec un partenariat, un co-auteur, Karim Haïdar, qui est ancien avocat et chef du restaurant parisien Askini. Donc, vous avez créé le livre « Les saveurs du Liban » de Beyrouth à Paris. Comment elle est venue, cette collaboration?
Parfaitement. Karim, qui est un vrai professionnel, il est devenu professionnel parce qu'au départ, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les recettes de sa familiale. Moi, les recettes, je les possédais parfaitement parce que j'ai grandi dedans, j'ai évolué dedans toute ma vie, je les ai cuisinées et donc je les connaissais parfaitement. Et Karim a surtout apporté la technicité. Et ça, c'est les chefs, ils ont besoin de recettes. Je sais qu'il y a des balances qui pèsent au gramme près, pour que la recette ait toujours le même goût. Dans un restaurant, vous ne pouvez pas un jour présenter une recette salée et un autre jour qu'elle manque de sel. Donc Karim, on a très très bien fonctionné ensemble. On a fait 3 livres ensemble. Et celui-ci, c'est le troisième. Et ce troisième, ce sont les 2 livres ensemble que nous avons repris, revérifiés, réhabilités, fait de nouvelles photos et ressortis parce que le premier était épuisé et que l'éditeur a préféré, et nous aussi, qu'il existe à nouveau, parce que nous n'avons pas envie que ça disparaisse. Voilà. Nous avons envie de transmettre cette cuisine aux générations futures,
Voilà, bon, je vais vous laisser maintenant parce que je sens qu'on a besoin de vous du côté des cuisines. On est en train de me faire les gros yeux depuis tout à l'heure. Merci André Mahalouf d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle pour tous ceux qui sont intéressés par la cuisine libanaise, justement, vous pouvez retrouver son livre avec Les saveurs du Liban de Beyrouth à Paris, du côté du stand de numéro 14 dans le salon du livre du Grand Narbonne. Et si jamais vous voulez déguster quelques petites recettes de blettes, n'hésitez pas. Vous pouvez passer ici dans le centre des Halles de Narbonne pour pouvoir déguster toutes ces petites recettes. Vous avez encore à peu près une heure pour pouvoir déguster tout ça. Voilà Jean-Michel, je vais te rendre la main et moi je vais pouvoir aller rejoindre Marilyn du côté du Salon du Livre pour aller voir un nouvel auteur.
Merci Thomas, il est 11h30 sur Grand Sud FM, voici Florent Pagny.